Radio Starbucks.
Morning Edition from NPR News.
Sí, Santinto de House.
Radio Rosana Piperi.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
Et voici un jour dans le monde, jusqu'à 19h, escale reportage avec le sort des yézidis en Irak. Les yézidis, communauté religieuse kurde, cible des djihadistes de l'État islamique, Alice Serrano, était sur place dans le Kurdistan irakien. Sous les radars de l'actualité, Amélie Perrier, donc en Inde, au Liban, en Chine. Le mercredi, le cinéma en VO, Eva Bétan nous parlera d'un film long comme une série, 14h, La Flore de l'Argentin, Mariano Linas, un film hors norme. Le Monde à l'envers, Cyril Sauvageau. Les pays qui veulent changer de nom pour des raisons historiques ou diplomatiques. Et tout de suite, la bataille de Baghouz en Syrie, la fin de Daesh.
Pierre Veille. Un jour dans le monde.
Environ 400 militants terroristes du groupe État islamique ont été arrêtés aujourd'hui alors qu'ils tentaient de fuir leur ultime réduit en Syrie à Baghouz. Ils ont tenté de s'évader grâce à un réseau qui voulait les transporter vers des régions éloignées. Les forces démocratiques syriennes les ont interceptés. Agnès Levallois, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, chargée de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Cette bataille actuellement là autour de Baghouz dans l'est de la Syrie, ce dernier réduit de Daesh, on a du mal à imaginer, c'est donc un simple village, c'est ça, c'est aujourd'hui le territoire de Daesh?
Oui, c'est ce qui reste de ce territoire quand on pense que au grand moment de l'expansion territoriale de Daesh, cette organisation régnait, si je puis dire, sur plus de 90 000 km². Aujourd'hui, il ne reste pratiquement plus rien suite à la coalition internationale qui s'est mise en œuvre pour faire en sorte que cette organisation terroriste ne puisse plus avoir de territoire. Et donc, on a vu depuis deux ans vraiment une perte de territoire de trois ans considérable jusqu'à ce réduit qui reste aujourd'hui et qui livre sa dernière bataille, puisqu'on voit effectivement encore quelques combattants qui essayent de résister jusqu'au dernier moment. Mais on voit bien que là, il s'agit des derniers jours de cette organisation.
Alors, qui sont les combattants qui assiègent actuellement Baghouz et l'État islamique, ces forces démocratiques syriennes? Est-ce qu'elles sont épaulées, par exemple, au sol par des Américains, par des militaires américains ou des militaires français?
Alors, ce que l'on sait, c'est qu'il y a quelques forces spéciales américaines et françaises, entre autres, qui sont présentes sur le terrain pour aider ces forces démocratiques syriennes à reprendre le territoire contre les combattants de Daesh, et qu'il y a évidemment l'appui aérien de la coalition menée essentiellement par les Américains, avec les Français aussi qui sont présents. Et donc il y a vraiment sur le terrain, si vous voulez, l'idée c'est que les Occidentaux ne voulaient pas être présents sur le terrain. Il y a quand même des mauvais souvenirs d'intervention militaire dans la région de la part des Occidentaux. Je pense à l'intervention américaine en Irak. En revanche, qu'il y ait des forces spéciales qui soient là pour aider ces forces, oui, bien sûr, et qui ont permis jusque-là cette réduction de plus en plus grande de ce territoire qui était contrôlé par cette organisation radicale et terroriste.
Mais alors, ces forces démocratiques syriennes, ce sont des Kurdes ?
Alors, il y a des Kurdes qui sont majoritaires, mais il y a aussi des Arabes, puisque la région dans laquelle ils se battent aujourd'hui n'est pas une région kurde. Et donc, toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est cet équilibre entre les Kurdes et les Arabes. C'est vrai que les Kurdes ont été vraiment en première ligne dans la lutte contre l'organisation État islamique en raison du territoire qui a été pris par Daesh, qui était essentiellement un territoire qui appartient aux Kurdes. Mais les forces démocratiques syriennes ne sont pas uniquement composées de Kurdes. Et l'idée, c'est c'était vraiment que des forces syriennes aussi puissent faire partie de ces forces afin d'être acceptées aussi par la population dans cette région qui n'est pas majoritairement kurde.
Agnès Levallois, est-ce qu'il y a encore des civils dans ce village, cette localité, Baghouz, des civils qui ont subi la dictature de Daesh et qui sont utilisés comme bouclier humain?
Oui, il semblerait qu'il reste encore quelques civils qui soient prisonniers finalement, complètement pris en otage sur ce petit territoire qu'il reste. Et c'est aussi pour cela que c'est assez difficile pour les forces démocratiques syriennes, mais également pour la coalition, d'intervenir, puisque c'est vrai qu'elles savent qu'il y a certains endroits, des civils sont encore présents. Alors ça peut être aussi des civils qui sont des familles des combattants de Daesh, mais ça peut être aussi des civils qui n'ont rien à voir avec Daesh. Et donc toute la difficulté pour finalement arriver au bout de de cette bataille, c'est de faire en sorte d'essayer de limiter, en tous les cas, les pertes de civils, puisque vous savez qu'après, ça sera compliqué de reconstruire une société si tout a été détruit, et on sait que les destructions ont été absolument massives de la part de la coalition pour essayer de venir à bout de cette organisation terroriste.
Alors, on arrive au bout de cette bataille contre Daesh, et évidemment, on se demande comment les forces démocratiques syriennes vont gérer tous ces prisonniers. On compte 6000 djihadistes arrêtés depuis le mois de décembre. Comment ça se passe, la gestion de ces gens et de leurs familles? Parce qu'on voit également de nombreuses femmes voilées qui sortent de Baghouz. Qu'est-ce qui se passe après?
Alors, il y a d'abord une séparation qui est faite entre les femmes et les enfants et les combattants, puisqu'ils ne sont pas mis dans les mêmes camps. Donc, il y a plusieurs camps qui sont aujourd'hui sous la responsabilité des FDS, donc des forces démocratiques syriennes. Celles-ci, aujourd'hui, ont déclaré de façon tout à fait officielle qu'elles voulaient que les pays ressortissants s'occupent de leurs ressortissants, parce que c'est vrai que c'est une responsabilité énorme et c'est un poids énorme pour les FDS de devoir gérer ces milliers de, soit ces centaines de milliers de combattants et les familles qui vont avec. Donc il y a toute une négociation aujourd'hui avec les pays concernés pour savoir que faire. On sait que certains, il y a eu plusieurs centaines qui ont été remis à l'Irak récemment, parce que c'est vrai que des exactions ont été commises en Irak. Donc l'idée, c'est de remettre ceux qui ont combattu en Irak aux autorités irakiennes afin que celles-ci organisent des procès. Mais on voit bien que les autorités irakiennes risque aussi d'être dépassé par la situation. Et il y a une autre question diplomatique, politique, beaucoup plus délicate à gérer aussi, par exemple, pour la France ou pour les Belges, pour ceux, les pays occidentaux qui ont des ressortissants, qui ont été dans les camps, dans les rangs de Daesh. C'est comment éventuellement récupérer ces combattants. D'abord, on sait très bien qu'en termes de politique intérieure, il y a beaucoup de Français qui n'ont aucune envie de les voir revenir. Et comment négocier ce retour, puisqu'on ne peut pas officiellement négocier avec les FDS, qui ne sont pas un État, donc ce n'est pas une institution à travers des institutions étatiques avec lesquelles on négocie. Et la difficulté, c'est que la France n'a plus de relations diplomatiques avec le gouvernement de Bachar el-Assad en Syrie, donc on refuse aussi de négocier avec celui-ci. Et donc on est dans une situation aussi juridique et diplomatique extrêmement compliquée. Comment négocier ce devenir des combattants et des familles, parce qu'il faut vraiment distinguer les combattants et les familles. On sait qu'il y a certains grands-parents ici qui veulent que leurs petits-enfants soient rapatriés. Et donc on a aussi une question, avec qui on négocie. Autant avec l'Irak, c'est facile, il y a un gouvernement reconnu, mais avec la Syrie, on est dans une situation, en tous les cas, nous occidentaux, nous français, beaucoup plus délicate.
Enfin, il faut une sacrée infrastructure pour gérer tous ces terroristes de Daesh qui ont été arrêtés, plusieurs milliers. On peut imaginer que peut-être les forces démocratiques syriennes n'ont pas une infrastructure suffisamment solide et que donc ces terroristes pourraient s'échapper.
C'est bien la grande crainte, justement, c'est de savoir comment les forces de sécurité syriennes, même si on les aide, hein, il y a des aides de la part des occidentaux pour gérer ces camps, mais on sait bien qu'effectivement c'est un défi considérable et que aussi les FDS aujourd'hui vont, en négociant avec nous, essayer de négocier une reconnaissance en échange justement du fait que ce sont ces forces-là qui assurent aujourd'hui, qui gardent en tous les cas ces combattants. Donc on est vraiment dans une situation très délicate, mais aussi d'un point de vue diplomatique, comment gérer ça avec un interlocuteur qui n'est pas officiel, mais qui voudrait bien profiter de cette situation aussi pour qu'on le reconnaisse et qu'on lui reconnaisse des droits.
Alors il y a une question, où est le chef de Daesh, Abu Bakr al-Baghdadi?
Écoutez, j'en sais rien, non, je ne sais pas qui...
Mais il y a différentes hypothèses qui circulent. D'abord, est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'on est certain qu'il est vivant?
Certain, je ne sais pas qui peut le dire. On a le sentiment qu'il est encore vivant, parce qu'il y a eu il a fait passer des messages. Ce que l'on sait de toute façon très clairement, c'est qu'un certain nombre de combattants de Daesh sont dans la nature. Tous ne sont pas à Baghouz aujourd'hui dans la dernière bataille. Tous ne sont pas dans des camps sous le contrôle des FDS. On sait très bien qu'il y a encore un certain nombre de combattants qui ont fui, qui ont réussi à partir et qui se cachent sur le territoire entre la Syrie et l'Irak.
Vous dites un certain nombre.
Je serais incapable.
En centaines ou en milliers?
Je pense en centaines, mais ouais. Honnêtement, je serais absolument incapable de vous donner un chiffre crédible en la matière. C'est extrêmement difficile.
Donc, ils seraient en Irak?
En Syrie.
En Syrie, on peut imaginer qu'ils sont partis dans d'autres pays?
Oui, on sait qu'il y a quelques combattants qui sont aujourd'hui en Libye, certains qui sont dans le Sinaï, et donc il y a eu un éparpillement, si je puis dire, d'un certain nombre de ces combattants qui ont très bien compris que la situation était en train de se terminer, si je puis dire, sur le terrain dans cette zone Irak-Syrie, et qui sont partis pour essayer de trouver, d'aller dans des zones qui ne sont pas contrôlées par l'État. C'est vrai que la Libye et le Sinaï font partie de ces zones un peu de non-droit, de non-État, et qui peut permettre à certains de ces combattants de se replier en attendant de voir comment les choses vont évoluer et éventuellement ce qu'ils pourraient faire ou non. Donc c'est vrai que quand on parle aujourd'hui de réduction vraiment de ce territoire de Daesh, c'est une réalité, ce qui ne veut pas dire que la menace représentée par cette organisation a complètement disparu, bien évidemment.
Mais on peut imaginer qu'ils vont tenter de s'organiser pour reconquérir les territoires qu'ils viennent de perdre, ou plutôt ils vont se regrouper dans certains pays et peut-être tenter de lancer des opérations terroristes.
Ce que je crois, c'est qu'ils ont renoncé aujourd'hui à la reconquête du territoire parce qu'ils n'en ont absolument plus les moyens, et ça c'est je crois que ce rêve ou ce projet d'État s'est complètement terminé. Ce que l'on sait, c'est qu'effectivement certains combattants isolés, seuls, peuvent tout à fait mener une opération. On voit bien que les opérations qui ont été menées dans les pays occidentaux en particulier, ces opérations qui sont assez faciles à monter, qui ne coûtent pas cher, qui n'ont pas besoin d'une infrastructure lourde et qui n'ont même pas besoin qu'ils se reconstituent. Mais c'est pour ça que l'inquiétude peut être là, c'est savoir qu'un certain nombre de combattants peuvent avoir envie d'organiser une opération ponctuelle. Et ça peut causer beaucoup de dégâts sans nécessiter vraiment cette infrastructure telle qu'elle existait du temps où l'État de l'organisation islamique a tenté d'exister sur le territoire syrien et irakien.
Donc la menace est toujours là. Est-ce qu'on peut craindre notamment un travail de Daesh sur les réseaux sociaux, sur Internet? Est-ce que là, ils peuvent se lancer dans une vague de propagande?
Ils ont été quand même très sérieusement affaiblis. Ils n'ont plus du tout les mêmes ressources qui leur avaient permis au temps où ils étaient vraiment très forts d'avoir justement des personnes qui étaient sur les réseaux sociaux et qui avaient des opérations de communication extrêmement développées. Aujourd'hui, il faut bien imaginer qu'avec la destruction des infrastructures, il n'y a plus d'infrastructures qui existent aujourd'hui pour ces combattants de Daesh pour pouvoir justement essayer de reprendre ce travail de propagande. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un élément, un qui essaiera sur un réseau de dire quoi que ce soit. Mais si vous voulez, il n'y a plus cette infrastructure qui, à un moment, était tellement organisée qu'il y avait des messages en permanence dans toutes les langues pour atteindre un public extrêmement large à travers le monde, parce que l'idée c'était vraiment d'essayer d'attirer des combattants du monde entier pour le rejoindre ce territoire. Tout ça c'est terminé, et donc l'effet d'attraction aussi sur tout un tas de jeunes n'existe plus aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des irréductibles, évidemment.
Alors ces terroristes de Daesh qui ont été arrêtés, ils sont interrogés actuellement, et les gens des forces démocratiques syriennes constatent leur fanatisme. Ils n'ont pas de regrets, ils étaient extrêmement motivés. Est-ce que vous êtes surprise par ce fanatisme de ces gens?
Surprise, non. Alors, c'est qu'il y a certains quand même, je pense que tous ne sont pas fanatiques à ce point. C'est-à-dire que là aussi, il y a une gradation, hein, si je puis dire, ceux dont parle les FDS, effectivement. Mais ils ont été dans un tel délire et dans un tel truc mortifère pendant des années que c'est vrai que ça ne surprend pas outre mesure que certains puissent continuer à être complètement à vivre dans un monde qui n'a plus rien à voir avec le monde réel et qui se sont complètement enfermés. C'est une espèce d'enfermement qui est absolument terrifiant.
Et d'après ce conseil, il y a beaucoup d'Européens parmi ces terroristes de Daesh?
Il y en a, oui, il y en a un certain nombre.
Français,
il y a des Français, il y a des Belges, mais il y a aussi des Tunisiens, des Marocains. Enfin, ce qui est incroyable dans ce projet qu'il a tenté d'être mené, c'est qu'il a réussi à attirer, en fait, du monde entier, des personnes du monde entier qui ont rejoint cette espèce de projet complètement délirant. Et c'est ça qui est le plus troublant et le plus déstabilisant, finalement, dans ce projet. C'est comment des jeunes qui étaient ou des moins jeunes qui étaient en France, en Belgique, au Maroc, mais aussi en Indonésie, en Tchétchénie, se sont retrouvés sur ce projet complètement délirant.
Le califat de l'État islamique n'existe plus. L'État islamique a perdu la ville de Mossoul en Irak. Là, nous sommes à Baghouz, dans le nord-est de la Syrie. Ce village va tomber dans les prochaines heures ou les prochains jours. Daesh, c'est fini en Syrie. Est-ce que cela consolide le régime de Bachar el-Assad?
Pour moi, ça ne le consolide absolument pas, parce que vous avez bien vu que l'armée syrienne est complètement absente de toute cette bataille, et l'armée de Bachar el-Assad n'est absolument pas concernée par cette reprise du territoire par les forces démocratiques syriennes. Donc maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est quelle négociation va être menée entre les FDS et le gouvernement de Assad, et comment le gouvernement de Assad va être en mesure de pouvoir contrôler ce territoire. Je crois que ce gouvernement et cette armée n'a absolument pas la capacité aujourd'hui de pouvoir contrôler ce territoire.
Donc pourquoi?
Parce que l'armée a été complètement affaiblie par 8 ans de guerre, une armée qui est complètement quand même très 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 faible et qui n'arrive plus à recruter. Pourquoi autant de jeunes Syriens partent de Syrie? C'est parce qu'ils veulent pas être enrôlés dans l'armée. Donc aujourd'hui, l'armée de Bachar el-Assad est capable de contrôler une partie, on dit 30-40% du territoire, 50% grand maximum, mais toute cette partie est, qui est la partie désertique à la frontière avec l'Irak, le gouvernement de Assad en est parti depuis maintenant de nombreuses années, et que je ne le vois pas cette armée en mesure aujourd'hui de contrôler aussi bien Damas, Homs, Alep, qui est la région de la côte qui est vitale pour le régime, mais cette armée n'aura absolument pas la capacité de contrôler l'autre partie du territoire. Donc maintenant, la question de Daesh est réglée peut-être, mais la question politique syrienne et militaire et de contrôle du territoire reste entière. Et il va falloir effectivement voir comment les choses vont évoluer. Mais je ne crois en rien que ça consolide le régime de Assad.
Agnès Levallois, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Inter. Je rappelle, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient, chargée de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Merci beaucoup.
France Inter. Pierre Veil. Un jour dans le monde.
Et à suivre dans Un jour dans le monde jusqu'à 19h, escale, reportage avec Alice Serrano, avec les yézidis du Kurdistan irakien. On va retrouver cette région, donc les yézidis, victimes des exactions de l'État islamique. Amélie Perrier, bien sûr, sur les radars de l'actualité. Et puis le cinéma en VO, c'est le mercredi, avec Eva Bétan. Bonsoir Eva.
Bonsoir.
Alors cette semaine, Eva, un film long, disons, comme une série.
Mais oui, mais quand vous voyez une série, vous ne comptez pas, vous dites pas la nouvelle série dans Claude Renage, elle fait 20h, oui. Vous allez voir bout par bout. Eh bien là, c'est pareil, et c'est très bien, et c'est du cinoche en plus.
Et c'est un film argentin.
Voilà.
À tout à l'heure, Eva, vers 18h55, 7h-5 si vous voulez, le monde à l'envers. Cyril Sauvageau, bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Il y a des pays qui veulent changer de nom pour de nombreuses raisons.
En l'occurrence, les îles Cook dans le Pacifique, et on verra que ce projet est rebaptiser un pays, mais c'est parfois plus compliqué que ça en a l'air.
Merci Cyril, à tout à l'heure. Voici le groupe new-yorkais Vampire Weekend sur l'album Father of the Bride, Harmony Hell.
Took a vow in summertime, now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender, but they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a problem ends, another one begins, and the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die. Like a young pretender. Beneath these velvet gloves I hide shameful crooked ends of a moneylender. Cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. rester.
Les musiques qu'on aime sur France Inter, Vampire Weekend avec Harmony Hall, et pas Hell, comme je l'ai dit précédemment. Hell, c'est l'enfer. Pas question d'enfer ce soir.
France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimakul Kapion.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars de l'actualité avec Amélie Perrier. Amélie, le patriotisme se niche partout, y compris dans les cabines des avions.
En tout cas en Inde, au moment où le pays a de nouveau traversé quelques turbulences avec son voisin pakistanais, la compagnie Air India a demandé aux équipages de rajouter un petit quelque chose aux consignes de sécurité. Vous savez, les issues de secours situées à l'avant et à l'arrière en cas de dépressurisation de la cabine, des masques tomberont au-dessus de vous et là...
बैठ जाएं जय हिंद मैडम बैठ जाएं जय हिंद तमाम मुसाफिर बैठ जाएं जय हिंद.
Vous l'avez, Pierre? J-Hind.
J-Hind, oui.
L'a répété plusieurs fois. Ce sont les deux mots à rajouter à la fin, donc, des annonces de bord. J-Hind, on peut le traduire par vive l'Inde ou victoire à l'Inde. Air India veut que ses hôtesses et stewards le disent dans chaque vol, après une courte pause et avec beaucoup de ferveur, indique la compagnie. Un porte-parole de la direction précise que la consigne date de 2017, qu'elle a dû être rappelée après le recrutement de nouveaux employés, mais elle est surtout bienvenue en pleine poussée de fièvre, donc, avec le Pakistan, les avions abattus de chaque côté la semaine dernière, vous vous souvenez, la poudrière du Cachemire. En Inde, donc, cela a provoqué un regain de patriotisme. Autre exemple, le succès du film d'action de Bollywood, Uri, The Surgical Strike. Avec cette réplique culte des soldats du film How's the Josh, on peut le traduire par « Comment est votre ferveur ?» Et puis vous entendez encore ensuite le fameux Jai Hind, hein, vive l'Inde. Ces deux cris de ralliement se répandent aujourd'hui comme une traînée de poudre dans l'espace public indien. Des ministres du gouvernement utilisent même le How's the Josh pour haranguer la foule en meeting.
Au Liban, des habitants tentent de sauver la vallée de Bisri.
Oui, ils sont plusieurs dizaines à avoir manifesté en début de semaine devant les bureaux de la Banque mondiale à Beyrouth. Pourquoi cette institution? Eh bien parce qu'elle vient de verser un gros chèque pour construire un barrage dans la vallée de Bisri, à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale libanaise. L'ouvrage doit permettre d'irriguer des terres agricoles et de fournir en eau potable plus d'un million et demi d'habitants, une partie de la population de Beyrouth. Sauf que les amoureux de cette vallée ont peur de la destruction d'un écosystème rare, de terres cultivées, comme nous le dit Marie-Dominique Farah. Elle est productrice télé et elle répond à Lorient Le Jour.
Bien sûr que c'est un patrimoine. Moi, je l'ai hérité de mon grand-père. C'est sacré. C'est une terre sacrée.
Voilà un patrimoine écologique, historique aussi. Les Romains, les Phéniciens sont passés par là, en témoignent des ruines. Et puis les opposants au projet de barrage soulignent aussi les risques de tremblements de terre. Le barrage doit être construit sur une faille sismique, comme nous le dit encore Marie-Dominique.
Sur une faille sismique en activité permanente. Donc, il y a danger. Il y aura danger à 100%.
Et les militants affirment que les eaux du barrage vont s'infiltrer dans le sous-sol et vont provoquer naturellement une activité sismique. Mais la Banque mondiale, elle, n'entend pas ses opposants depuis des années. Et elle vient de signer un prêt au Liban, donc de 474 millions de dollars.
On termine Amélie Perrier avec un morceau de rap pour marquer le plus grand événement politique de l'année en Chine.
Voilà, c'est un morceau de rap en anglais sur les deux sessions, Two Sessions, la réunion des délégués du parti qui vient de débuter à Pékin. L'artiste s'appelle Su Han, il n'est pas très connu, il chante la grandeur du pays avec les fiertés récentes, notamment l'exploration de la face cachée de la lune, les singes clonés, mais aussi un groupe de femmes souriantes. Alors c'est difficile de tout comprendre dans cette chanson. Le moment est venu pour le miracle chinois, dit-il quand même. Une vidéo produite par des agences de presse de l'État pour rallier l'enthousiasme des jeunes apparemment et puis l'intérêt à l'étranger aussi, d'où la langue anglaise choisie ici. Car les deux sessions intéressent de moins en moins, trop politiques, sans opposition, sans vrai débat, trop éloignées des préoccupations des Chinois, beaucoup s'en désintéressent. Des voix critiques ont dénoncé là un système de propagande richissime mais pauvre sur les plans culturels et intellectuels. On vous laisse juste donc de ce morceau de rap.
Amélie Perrier, sous les radars de l'actualité, a réécouté sur le sud de l'émission Un jour dans le monde. À demain, Amélie.
Avec plaisir, à demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin, le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul,
Washington,
San Paolo,
Beyrouth, France Inter.
Allah, 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 Allah.
Escale, reportage, alors que Baghouz, l'un des derniers bastions de l'État islamique en Syrie, est sur le point de tomber, on en parlait il y a quelques instants avec Agnès Levallois, un peuple a particulièrement souffert de ce califat, les Yézidis, minorité kurdophone installée dans le Sinjar, au nord de l'Irak. Plusieurs milliers d'entre eux ont été massacrés par les djihadistes de Daesh, essentiellement des hommes, plus de 6000 femmes et enfants ont été capturés et transformés en esclaves sexuels ou en soldats du califat. Et dans cette horreur, il y a un bureau travaille sans relâche pour venir en aide à ses victimes, le bureau de sauvetage des otages yézidis situé au Kurdistan irakien. Il a arraché des griffes de Daesh, plus de la moitié des yézidis détenus. Alice Serrano, bonsoir.
Bonsoir.
Alice, vous revenez d'Irak, plus précisément du Kurdistan irakien, et vous avez rencontré, et c'est rare, hein, tous les acteurs de ce réseau.
Hello. Good morning.
Good morning. Et je vous emmène à l'intérieur de ce bureau. Son directeur Hussein El-Kaidi nous accueille, costume impeccable, drapeau kurde accroché au mur, un imposant soleil qui écrase trois bandes rouges, blanches et vertes. Et une fois les otages délivrés, ils sont emmenés ici et sont interrogés par l'un des agents dans une salle spécifique.
Nous avons un document top secret dans lequel nous enregistrons toutes les informations depuis le premier jour de l'enlèvement de l'otage jusqu'à sa libération. Voilà, c'est ce document. Il est fait de cette manière-là, avec la photo de l'otage et son empreinte. Bien sûr, ce sont des dossiers top secrets.
On y consigne toutes les informations recueillies sur les geôliers, des otages, leurs noms, leurs habitudes. Un véritable travail de fourmi que mènent les 8 fonctionnaires de ce bureau. Un bureau créé en octobre 2014 à l'initiative du Premier ministre kurde Nechirvan Barzani. Et ces agents sont épaulés par des passeurs responsables de la partie opérationnelle. Des hommes de l'ombre qui ont tissé de nombreux réseaux sur le terrain. Et grâce à leur détermination et à leur courage, plus de 3000 otages ont déjà été libérés, essentiellement des femmes et des enfants, mais presque autant manquent encore à l'appel. Alors où sont-ils ?
Ils sont répartis dans 3 endroits principaux. Tout d'abord en Syrie, puis en Turquie et en Irak.
Comment ça se fait qu'elles soient en Turquie, étant donné que l'État islamique n'est pas en Turquie ?
Les djihadistes de Daesh qui ont fui Mossoul, Tal Afar et la Syrie sont allés en Turquie. Et selon nos informations, ils ont pris des otages avec eux.
Impunément ?
Oui, tout simplement.
Allô ?
Oui, dis-moi. Ils sont combien ? Tu veux dire qu'ils sont arrivés dans la zone de sécurité ? 3 personnes ? Ok, merci. Appelle Niessar tout de suite.
Hussein vient d'apprendre la libération d'une mère et de ses 2 enfants. C'est Idriss qui s'en est chargé et son réseau de passeurs, des commerçants, des agriculteurs, des médecins qu'il rémunère souvent via le bureau. Tous sont des habitants des zones occupées par le califat. Et depuis cette nuit d'août 2014, Idriss a survécu au massacre de son village avec 4 balles dans le corps. Ce père de famille s'est d'abord juré de délivrer sa famille de l'emprise de Daesh, puis tous les yézidis qu'il pouvait.
Et Alice, comment s'y prend-il ?
Eh bien, c'est un scénario à la James Bond qu'Idriss a bien voulu nous révéler. Quand il reçoit l'appel d'un otage, il tente de le localiser, puis il lui donne rendez-vous.
Et après avoir récupéré son adresse, je lui demande de sortir et de tenir, par exemple, un sac blanc à sa main droite. Si elle a un enfant avec elle, je lui dis « Tiens ton enfant de la main gauche et il doit porter un t-shirt bleu ou rouge, par exemple. » J'appelle le sauveur, c'est comme ça qu'on appelle le passeur. Je lui dis « Tu vas t'arrêter là-bas. Tu vas voir une femme qui tient de la main gauche un enfant avec un t-shirt bleu et qui tient un sac blanc de la main droite. » Tu t'arrêtes, oui, tu gardes la voiture devant elle et tu dis Idriss.
Une voiture blanche s'est égarée devant moi. Il y avait 2 hommes dedans. Ils ont dit allez, monte. Je suis montée avec mes 3 enfants dans la voiture. Dieu merci, on est monté dans la voiture à 9h le matin. À midi, nous étions arrivés au checkpoint des combattants kurdes syriens.
Anoura, elle aussi était délivrée avec ses 3 enfants par Idriss, c'était il y a 1 an et demi. Cette trentenaire, le regard triste, qui cache son corps dans une longue robe noire, raconte avoir été interrogée plusieurs jours au checkpoint par les combattants kurdes syriens avant de pouvoir franchir la frontière. Et à chaque étape, le passeur concerné tient Idriss informé.
Cette vidéo, c'est quand une maman et ses deux enfants traversaient le désert avec le passeur. C'était les messages qu'on s'envoyait. Je demandais, elles sont arrivées où ? Alors pour me donner les preuves, et pour ne pas que je me soupçonne, le passeur m'a envoyé la vidéo pour me montrer qu'elles étaient dans le désert. Et voilà, regarde, elles marchent dans le désert. Et là, on les voit sous une tente.
Et sur son téléphone, Idriss nous montre également la photo d'une petite fille. Le regard vide, le visage cerné d'un voile noir, c'est sa fille, elle a 11 ans. Et qui vous a envoyé cette photo ?
Un djihadiste. Abou Bara el-Jerzaoui.
Et pourquoi il vous l'a envoyé cette photo ? Il sait qui vous êtes ?
Oui, il le sait. C'est pour ça qu'il complique les choses. À chaque fois qu'on essaie de faire libérer ma fille, il répond non, j'ai un trésor, on ne va pas le laisser filer. Comparé à tout ce que je fais depuis le début, ça c'est le pire du pire. Parce que... elle est là-bas, elle-même, toujours elle.
Noura, elle, vit avec ses trois enfants dans le camp de Zaro, au nord du pays. Son mari a été tué par Daesh. Aujourd'hui, elle dit aller mieux.
Moi, j'ai quatre enfants. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu. Même si je commence une nouvelle vie, il y aura toujours ce malheur dans mon cœur. Ma vie n'a pas été belle. J'espère que celle de mes enfants le sera.
Les quatre enfants sont aujourd'hui suivis par une psychologue. Les cauchemars sont moins fréquents, les rires reviennent. Soufiane, l'un de ses enfants, a même appris à jouer de la musique. Noura rêve à présent avec ses enfants d'Australie.
Les Yézidis, victimes des exactions de Daesh. Reportage complet d'Alice Serrano dimanche prochain sur France Inter de 9h à 10h dans Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter. Merci Alice. Et voici un peu de musique, avec un classique de Nat King Cole qui date de 1949, Calypso Blues, adapté par Calypso Rose, une version reggae de Nat King Cole.
Why, oh why?
Ah, la rythmique du reggae avec ce son de basse, ça reste une pure merveille. Hein. Calypso Rose avec Calypso Blues. 3, 2,
1, France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jour.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action! Le cinéma en VO avec Eva Bétan le mercredi. Eva, un film argentin, enfin une partie d'un film argentin.
Oui.
Il s'agit de La Flore de Mariano Linas. Une partie car le film va sortir en quatre parties échelonnées sur le mois de mars. La première partie étant sur les écrans aujourd'hui.
Vous avez tout compris.
Voilà. Et alors une partie parce que le film dure près de 14 heures.
Oui, on va arrêter que ce chiffre.
14 heures. Les critiques sont dithyrambiques et c'est un film France Inter. Alors, de quoi s'agit-il?
Alors, vous allez me passer l'expression, mais il ne s'agit pas d'une prise de tête. Le film, c'est pour les spectateurs que nous, nous sommes tous devenus. Godard disait il y a 20 ans que le zapping avait permis aux cinéastes de raconter leurs histoires plus vite, car il avait habitué les spectateurs à comprendre vite. Eh bien, depuis, les spectateurs que nous sommes ont opéré une mue supplémentaire. Le spectateur peut enchaîner trois épisodes d'une série d'affilée. Encore un autre rapport au temps. Mais La Flore n'est pas une série sur grand écran. Parce que ce n'est pas le schéma de la série. Une série, même si c'est qu'un sujet angoissant, c'est quelque chose de rassurant. On reconnaît les décors, on reconnaît les acteurs, on reconnaît aussi la manière de raconter les histoires. Ici, ça vous semblait antinomique, mais on devient accro comme dans une série, mais à l'imprévisible. Alors, notre point de repère, ça va être les quatre actrices. Chaque fois, ce sera des histoires, des univers et des rôles différents pour elle. Ensuite, c'est nos limites. Pourquoi ? Parce qu'on peut tout faire, on est au cinéma. Par exemple, le premier épisode, c'est une sorte de série B fantastique. Le deuxième, une histoire d'amour avec des chansons. En fait, qu'est-ce que fait le réalisateur ? C'est comme un alchimiste. Il a piqué aux séries un bout de leur ADN, c'est-à-dire l'addiction, et il l'a fait muter. Il l'a injecté, vous voyez les éprouvettes. Il a injecté ce que la série ne peut pas se permettre et que le cinéma peut, c'est-à-dire la liberté. Ne pas être tenu par un cahier des charges. Je voudrais que vous écoutiez Mariano Linas. Ce qu'il dit du cinéma est vraiment intéressant. Lui, il veut faire le cinéma d'hier. Hier, c'est le XXe siècle, parce qu'il trouve qu'on a perdu quelque chose au XXIe siècle.
La chose qui a changé, je crois, c'est l'espoir que l'on place dans le cinéma, c'est-à-dire à quoi sert le cinéma. Aujourd'hui, on pense au cinéma comme à quelque chose qui ressemble à la télévision. J'ai eu une formation surréaliste, il y avait des phrases que l'on disait, de même que les catholiques ont leurs phrases à eux. Une de nos phrases était
« changer la vie ».
Et je crois que le cinéma était une machine qui cherchait à changer la vie, à ce que la vie soit autre chose. Il emmenait le spectateur ailleurs, dans un ailleurs mystérieux où existait l'aventure, l'espoir. Je ne sais pas si le cinéma remplit toujours cette fonction. Je crois que quelque chose s'est perdu avec la manière dont le cinéma a changé. Quelque chose qui existait au XXe siècle, cette fonction transformatrice, mystérieusement transformatrice. J'ai l'impression qu'il ne la remplit plus aujourd'hui.
Voilà, c'était donc Mariano Linas à propos de ce film Flore. Eva, le tournage du film s'est échelonné sur 10 ans.
Oui.
Alors, pas en continu, bien sûr, mais quand même. Comment on finance un film pareil sur 10 ans ?
Vous vous souvenez de la publicité, quand on n'a pas de pétrole, on a des idées.
Oui.
Eh bien, c'est pareil. Quand vous voyez l'image, c'est pas cheap du tout. Hein. Il y a plein d'inventivité, il y a des moments du noir et blanc, enfin, il y a de tout. Mais quand même, on aurait pu penser que ça coûtait quand même un certain prix. Alors, on demande combien ?
300 000 euros. Environ.
C'est intéressant parce que c'est la seule façon possible de faire un film comme celui-ci. Il faut voir le film pour comprendre. C'est un film ambitieux. Il y a des séquences tournées en Sibérie, d'autres murs de Berlin. C'est si cher que c'est impossible à faire dans le cadre de l'industrie. Ça reviendrait plus cher que, je ne sais pas moi, Iron Man. Donc la seule manière de faire, c'est pas cher. Nous avons fait ce film de manière artisanale, avec très peu de monde. Vous savez quel est le secret ? Il n'y a pas de producteur. C'est un film fait sans producteur. Si on avait dû demander l'avis d'un producteur, il aurait dit que c'était impossible à faire.
Pour 300 000 euros aux États-Unis, on fait même pas un clip.
Voilà, Eva Bétan, les films en VO, Flore de Mariano Linas, et c'est un film France Inter.
Et vous entendez la musique qui est formidable.
Merci Eva.
Le 18-20, Pierre Veille. Sur France Inter.
Le monde à l'envers, Cyril Sauvageau. Nous en parlions ici même hier soir avec Amélie Perrier. Les îles Cook envisagent de changer de nom. L'archipel du Pacifique, ancien protectorat britannique, entend revenir à ses racines polynésiennes après avoir porté pendant deux siècles le nom de l'explorateur James Cook. Ce projet de changement de nom, Cyril, en rappelle beaucoup d'autres, surtout à l'époque de la décolonisation.
A commencé, oui, par le tout premier pays d'Afrique à avoir obtenu son indépendance, le Ghana, le 6 mars 1957, le jour même de l'indépendance, le premier président du pays, Kwame Nkrumah, annonce sa décision hautement symbolique, la côte de l'or, comme on l'appelait jusque-là dans l'Empire britannique, en raison de ses nombreuses mines d'or, devient donc le Ghana, référence à un ancien royaume africain de la région. D'autres pays du continent vont bientôt suivre l'exemple, le Bénin notamment, l'ancien Dahomey, mais il faudra une quinzaine d'années à l'ex-colonie française pour se rebaptiser, là encore, en hommage au royaume ancestral d'avant les colons. De la même manière, la Haute-Volta deviendra le Burkina Faso dans les années 80 et la Rhodésie se rebaptisera Zimbabwe. Aujourd'hui, la quasi-totalité des pays d'Afrique ont changé de nom depuis la décolonisation. Le dernier en date, le Swaziland, a attendu 2018 et le 50e anniversaire de son indépendance. Le Swaziland s'appelle désormais Eswatini, son nom d'origine.
Et ce changement, Cyril, ne s'est pas fait dans la douceur.
Effectivement, le roi du Swaziland a été beaucoup critiqué chez lui pour avoir pris seul cette décision, sans consulter son peuple, à une époque 50 ans plus tard où, à vrai dire, plus grand monde ne s'en souciait vraiment. Pour l'opposition, changer le nom du pays n'est qu'un subterfuge, une façon de montrer qui détient le pouvoir et un moyen surtout pour le monarque de faire oublier les vrais problèmes du pays, la pauvreté et le chômage. La preuve que changer le nom de son pays n'est pas la solution miracle pour un souverain ou un gouvernement. Encore faut-il que l'idée fasse consensus et aille dans le sens de l'histoire. Exemple, en Birmanie, depuis 1989, officiellement, on ne dit plus Birmanie, mais Myanmar, c'est le nom imposé par la junte militaire. Ça n'est pas un problème pour, on va dire, une grande partie des Birmans qui utilisaient déjà ce nom auparavant, mais pour les minorités ethniques dans le pays, par exemple, c'est autre chose. Quant à l'opposition à la junte, eh bien, elle rejette catégoriquement ce nom de Myanmar. La communauté internationale n'est pas non plus unanime et plusieurs pays, comme les États-Unis, mais aussi la France, ont longtemps continué à favoriser l'appellation Birmanie ou Burma en anglais.
Et alors, quand plusieurs pays se mêlent de ces histoires de noms, alors là, Cyril, ça peut devenir un vrai casse-tête.
Mais regardez ce qui s'est passé avec la Macédoine. Vous connaissez l'histoire. Depuis le début des années 90, cette région d'ex-Yougoslavie et ses 2 millions d'habitants réclamaient le droit de s'appeler Macédoine. Or, c'est aussi le nom d'une région du nord de la Grèce. La querelle diplomatique qui oppose les deux pays a duré près de 30 ans et a longtemps semblé inextricable jusqu'à ce qu'un accord soit enfin trouvé. Depuis, les Macédoniens ont approuvé le changement de nom par référendum. Le Parlement grec a fait de même après bien des atermoiements. Résultat, la Macédoine va non seulement s'appeler officiellement République de Macédoine du Nord, mais elle va aussi pouvoir enclencher son processus d'adhésion à l'OTAN et à l'Union européenne. Comme quoi, au-delà des symboles, changer de nom pour un pays, bah c'est aussi un peu changer d'époque.
Le monde à l'envers avec Cyril Sauvageau. Et si vous avez pris cette chronique en cours, je vous plains, vous pouvez la réécouter. Mais bien sûr, c'est parfait, c'est pour ça le podcast. Vous allez sur le site de l'émission Un jour dans le monde, vous cliquez sur les rubriques et vous trouverez Le monde à l'envers avec Cyril Sauvageau. N'oubliez pas, après le journal de 19h, bien sûr, le téléphone sonne et le standard 01 45 24 7000 qui est à votre disposition. On va parler ce soir de l'inégalité entre hommes et femmes.